Chapitre 4. Le chef des ennemis.
Pauvre gosse, murmura Lupin en relisant le lendemain la lettre de Gilbert. Comme il doit souffrir.
Du premier jour où il l'avait rencontré, il avait pris de l'affection pour ce grand jeune homme insouciant et joyeux de vivre. Gilbert lui était dévoué jusqu'à se tuer sur un signe du maître. Et Lupin aimait aussi sa franchise, sa belle humeur, sa naïveté, sa figure heureuse. « Gilbert, tu es un honnête homme. À ta place, vois-tu, je lâcherai le métier et je me ferai pour de bon, honnête homme.
« Après vous, patron. »«
Tu ne veux pas ?»«
Ah non, patron. Un honnête homme, ça travaille, ça turbine. Et moi, c'est un goût que j'ai eu peut-être étant gamin. » Mais qu'on m'a fait passer.
Qui ont ? Gilbert se taisait. Il se taisait toujours quand on l'interrogeait sur les premières années de sa vie. Et Lupin savait tout au plus qu'il était orphelin depuis son jeune âge et qu'il avait vécu de droite et de gauche, changeant de nom, accrochant son existence aux métiers les plus bizarres. Il y avait là tout un mystère que personne n'avait pu pénétrer. Et il ne semblait pas que la justice fût en voie d'y parvenir. Mais il ne semblait pas non plus que ce mystère fût pour elle une raison de s'attarder. Sous son nom de Gilbert ou sous tel autre nom, elle enverrait aux assises le complice de Vaucheray et le frapperait avec la même rigueur inflexible.
Pauvre gosse. Si on le poursuit comme ça, c'est bien à cause de moi. Mais ils ont peur d'une évasion. Ils se hâtent d'arriver au but. Au verdict d'abord. Et puis, à la suppression. Un gamin de 20 ans. Et qui n'a pas tué. Qui n'est pas complice du meurtre. Hélas.
Lupin n'ignorait pas que c'était là chose impossible à prouver. Et qu'il devait diriger ses efforts vers un autre point. Mais vers lequel ? Fallait-il renoncer à la piste du bouchon de cristal ? Il ne put s'y décider. Son unique diversion fut d'aller à Enghien, où demeuraient Grognard et le Balu, et de s'assurer qu'ils avaient disparu depuis l'assassinat de la villa Marie-Thérèse. Or cela, il s'occupa et ne voulut s'occuper que de Daubrecq. Il refusa même de se livrer à la moindre considération sur les énigmes qui se posaient à lui, sur la trahison de Grognard et le Balu, sur les rapports avec la dame aux cheveux gris, sur l'espionnage dont il était l'objet, lui, personnellement.
Silence, Lupin. Dans la fièvre, on raisonne à faux. Donc tais-toi. Pas de déduction, surtout. Rien n'est plus bête que de déduire les faits les uns des autres avant d'avoir trouvé un point de départ certain. C'est comme cela que l'on se fiche dedans. Écoute ton instinct. Marche d'après ton intuition, et puisque, en dehors de tout raisonnement, en dehors de toute logique, pourrait-on dire, puisque tu es persuadé que cette affaire tourne autour de ce sacré bouchon, vas-y hardiment. Suce au Daubrecq et à son cristal.
Lupin n'avait pas attendu d'aboutir à ses conclusions pour y conformer ses actes. À l'instant où il les énonçait en lui-même, il se trouvait assis, petit rentier muni d'un cache-nez et d'un vieux par-dessus. Il se trouvait assis, 3 jours après la scène du vaudeville, sur un banc de l'avenue Victor Hugo, à une distance assez grande du square Lamartine. Selon ses instructions, Victoire devait, chaque matin, à la même heure, passer devant ce banc.
Oui, le bouchon de cristal, tout est là. Quand je l'aurai,
Victoire arrivait, son panier de provisions sous le bras. Tout de suite, il nota son agitation et sa pâleur extraordinaire.
« Qu'y a-t-il ? »
lui demanda Lupin en marchant aux côtés de la vieille nourrice. Elle entra dans un grand magasin d'épicerie où il y avait beaucoup de gens et se retournant vers lui,
« Tiens, voilà ce que tu cherches !»
Et tirant un objet de son panier, elle le lui donna. Lupin demeura confondu. « Il tenait en main le bouchon de cristal. Est-ce possible? Est-ce possible? Murmura-t-il, comme si la facilité d'un pareil dénouement l'eût déconcerté. Mais le fait était là, visible et palpable. À sa forme, à ses proportions, alors éteint de ses facettes, il reconnaissait, à ne s'y point tromper, le bouchon de cristal qu'il avait eu déjà sous les yeux. Il n'était point jusqu'à une certaine petite éraflure qu'on ne remarqua sur la tige et dont il se souvenait parfaitement. D'ailleurs, si l'objet représentait tous les mêmes caractères, il n'en offrait aucun autre qui semblât nouveau. C'était un bouchon de cristal, voilà tout. Aucune marque réellement spéciale ne le distinguait des autres bouchons. Aucun signe ne s'y trouvait inscrit, aucun chiffre, et taillé dans un seul bloc, il ne contenait aucune matière étrangère. Alors quoi ? Et Lupin eut la vision subite et profonde de son erreur. Que lui importait de posséder ce bouchon de cristal s'il en ignorait la valeur ? Ce morceau de verre n'existait pas par lui-même. Il ne comptait que par la signification qui s'attachait à lui. Avant de le prendre, il fallait savoir. Et qui pouvait même lui assurer que, en le prenant, en le dérobant à Daubrecq, il ne commettait pas une bêtise ? Question impossible à résoudre, mais qui s'imposait à lui avec une rigueur singulière. « Pas de gaffe !» se dit-il en empochant l'objet. « Dans cette diable d'affaire, les gaffes sont irréparables. » Il n'avait pas quitté Victoire des yeux. Accompagnée d'un commis, elle allait d'un comptoir à l'autre parmi la foule des clients. Elle stationna ensuite assez longtemps devant la caisse et passa près de Lupin. Il ordonna tout bas « Rendez-vous derrière le lycée Janson. » Elle le rejoignit dans une rue peu fréquentée.
« Et si l'on me suit ?»«
Non, non, j'ai bien regardé. Écoute-moi. Où as-tu trouvé ce bouchon ?»«
Dans le tiroir de sa table de nuit. » »«
Cependant, nous avons déjà fouillé là. » »«
Oui, et moi encore hier matin. » C'est sans doute qu'il y a mis cette nuit.
Mais sans doute aussi qu'il va l'y reprendre.
Peut-être bien.
Et s'il ne l'y trouve plus ?
Victoire parut effrayée.
Réponds-moi, s'il ne l'y trouve plus, est-ce toi qui l'accusera du vol ?
Évidemment.
Alors va l'y remettre et au galop.
Oh, mon Dieu ! Pourvu qu'il n'ait pas eu le temps de s'en apercevoir. Donne-moi l'objet, vite.
Tiens, le voici. Il chercha dans la poche de son pardessus.
Eh bien,
il n'y est plus.
Quoi ?
Ma foi, non, il n'y est plus.
On me l'a repris.
Tu as de la gaieté de reste, dans une pareille circonstance.
Que veux-tu ? Avoue que c'est vraiment drôle. Ce n'est plus un drame que nous jouons. C'est une féerie. Une féerie comme les pilules du diable ou bien le pied de mouton. Ah, dès que j'aurai quelques semaines de repos, j'écrirai ça. Le bouchon magique ou les mésaventures du pauvre Arsène.
Mais enfin, qui te l'a repris ?
Qu'est-ce que tu chantes ?
Il s'est envolé tout seul.
Il s'est évanoui dans ma poche. Allez, passé muscade.
Il poussa doucement la vieille bonne, et d'un ton plus sérieux, « Et rentre, Victoire, et ne t'inquiète pas. Il est évident qu'on t'avait vu me remettre ce bouchon, et qu'on a profité de la bousculade dans le magasin pour le cueillir au fond de ma poche. Tout cela prouve que nous sommes surveillés de plus près que je ne pensais, et par des adversaires de premier ordre. Mais encore une fois, sois tranquille. Les honnêtes gens ont toujours le dernier mot. Tu n'avais rien d'autre à me dire ?
Si, on est venu hier soir, pendant que M. Daubrecq était sorti. J'ai vu des lumières qui se reflétaient sur les arbres du jardin.
La concierge ?
La concierge n'était pas couchée.
Alors ce sont les types de la préfecture. Ils continuent de chercher. À tantôt, Victoire. Tu me feras rentrer.
Comment tu veux ?
Qu'est-ce que je risque ?
Ta chambre est au troisième étage. Dobrec ne se doute de rien. Mais les autres ?
Les autres ?
S'ils avaient eu quelque intérêt à me faire mauvais parti, ils l'auraient déjà tenté. Je les gêne, voilà tout. Ils ne me craignent pas.
À tantôt, Victoire. Sur le coup de 5 heures.